Tea des Amériques. Hugo Lanoë, bonjour Hugo.
Bonjour Edmond, bonjour à tous. Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Haïti et des Amériques. À la une aujourd'hui, une bourde. En conférence de presse hier devant la Maison Blanche, Donald Trump a nargué les journalistes en brandissant une copie de l'accord avec son voisin mexicain. Accord présenté comme secret, c'était sans compter sur le super objectif d'un photographe de presse qui en a déchiffré le contenu. Principal point d'achoppement entre les deux voisins, les flux migratoires. Alors pour quelles raisons les migrants d'Amérique centrale tentent-ils de rejoindre les États-Unis? On voit ça dans la revue de presse des Amériques. Suivra un reportage aux côtés des milliers de professeurs chiliens, tous mobilisés dans les rues du pays hier. Deuxième semaine de grève consécutive, au cœur de leur colère, la réforme des programmes scolaires et le manque de moyens alloués à ce secteur public. Et puis avant de retrouver l'actualité des Antilles et la saison des cyclones, on parlera cinéma avec Zombie Child, le nouveau film de Bertrand Bonello qui nous entraîne entre la France et Haïti.
RFI, la radio del mundo.
Ses mimiques, ses gestes, ses cheveux ou encore son langage corporel se prêtent bien à la photographie, en attestent les témoignages des différents photojournalistes accrédités à la Maison Blanche. Oui, Donald Trump est un bon client, comme on dit dans le jargon, tellement bon qu'il peut commettre des faux pas. Dernière en date, hier, en conférence de presse, Donald Trump nargue les journalistes, brandit une partie de l'accord sur l'immigration avec le Mexique, qu'il présente comme confidentiel. Soudain, un photographe dégaine son objectif et le texte n'a alors plus rien de secret, Samy Bourlifa.
Depuis le début de la semaine, Donald Trump ne cesse de le répéter. Il a signé un accord sur l'immigration avec le Mexique. Mais pas la peine de chercher à en savoir davantage, précise la Maison Blanche. Le texte est secret. De son côté, Mexico affirme n'avoir aucune information quant à un tel accord confidentiel. De quoi alimenter le scepticisme de la presse américaine qui revient alors à la charge. Donald Trump est assailli de questions lors d'un point de presse. Il sort alors une feuille de la poche intérieure de son costume et la brandit à plusieurs reprises face aux journalistes certifiés que les termes de l'accord étaient écrits noir sur blanc sur ce bout de papier. Il n'en fallait pas plus pour le photographe du Washington Post qui immortalise le moment. Sous un soleil éclatant, les lignes du document apparaissent en filigrane. Très vite, elles sont déchiffrées mais ne révèlent rien d'extraordinaire. Il y est mentionné que les États-Unis feront le point sur les progrès enregistrés à la frontière sud d'ici 45 jours. Le Mexique avait déjà fait une déclaration similaire expliquant que s'il n'arrivait pas à endiguer le nombre de clandestins traversant son territoire pour se rendre aux États-Unis durant ce délai, l'accord pourra être revu.
Samy Bourlifa est au cœur de cet accord entre les deux voisins mexicains et américains, l'immigration, un thème à la une aujourd'hui de la revue de presse des Amériques. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et direction le Guatemala, Arim, où les producteurs de café sont obligés de quitter leurs plantations.
Oui, c'est un reportage très intéressant à lire dans le Washington Post. Le journal essaye de comprendre pourquoi les habitants de l'Amérique centrale souhaitent quitter leur pays et partir aux États-Unis. Au Guatemala, le reporter du Washington Post a rencontré des paysans, des producteurs de café qui sont en train d'abandonner leurs plantations. La raison, eh bien, la chute vertigineuse du prix du café qui fait que cette activité n'est plus rentable. Carrie, aux 48 ans, montre aux journalistes une carte de la frontière américaine. Voilà, moi je pars dans 8 jours, dans 11 jours, pardon, avec mon fils, explique-t-il en pointant son doigt là où il espère pouvoir traverser la frontière avec le café, poursuit-il. On ne peut plus faire de l'argent ici.
En 2015, une livre de café, équivalent à un demi kilos, se vendait pour 2,20 $. Aujourd'hui, à Rim, elle ne vaut plus que 86 cents.
Exactement. Et comme Carrillo, Hugo, de nombreux producteurs jettent l'éponge et se mettent en route vers les États-Unis. En fait, les Guatémaltèques, écrit le Washington Post, sont devenus les principaux ressortissants nationaux d'Amérique centrale à vouloir émigrer vers les États-Unis. Plus de 200 000 ont été arrêtés à la frontière durant les 8 derniers mois.
Autre sujet dans la presse, le duel Trump-Biden. Hier, le président américain et le candidat démocrate à la présidence ont fait campagne dans l'Iowa. Et vous allez l'entendre, le ton est monté entre les deux.
I think he's the weakest mentally. I call him 1% Joe. Because until Obama came along, he didn't do very well.
Look, I believe that the president is literally an existential.
Voilà, je pense qu'il est le plus faible mentalement, a asséné le président américain Donald Trump. Moi, je l'appelle Joe 1%, car avant Obama, il n'a pas fait grand-chose. Voilà, c'était donc le président américain et la réplique de Joe Biden en tête des sondages parmi les candidats démocrates n'a pas tardé.
Look, I believe that the president is literally an existential threat to America.
Vous savez, je crois que le président Trump est une menace existentielle pour les États-Unis.
Un beau combat de coq, voilà à quoi pourrait ressembler une campagne finale entre ces deux hommes.
Exactement, c'est ce qu'il écrit, c'est ce qu'écrit le New York Times. Apparemment, chacun d'entre eux estime qu'il pourra tirer un avantage en attaquant l'autre. Pour Joe Biden, par exemple, être la cible des flèches présidentielles est en fait un cadeau. À ce stade de la campagne, estime le site d'information The Hill, l'ancien vice-président gagne en crédibilité par rapport aux autres candidats démocrates. Il est conforté dans son rôle de challenger le plus important face à Donald Trump, écrit le site, qui publie un sondage, Hugo. Un sondage favorable à Joe Biden, ce dernier devance le président de 13% dans les intentions de vote. Un sondage national effectué par l'université de Quinnipiac à 17 mois quand même de l'élection présidentielle.
On part au Nicaragua, où plus de 50 prisonniers politiques ont été libérés.
Ouais, ils ont bénéficié d'une loi d'amnistie, une loi pourtant décriée par l'opposition qui estime que cette mesure garantit surtout l'impunité des policiers et paramilitaires qui ont réprimé les protestations dans le sang. Il n'empêche la libération des prisonniers a suscité une grande émotion dans le pays, écrit le journal Prensa Libre. Le quotidien publie une photo qui montre l'étudiante Eva Amaya Coppens, encore vêtue de sa tenue bleue de prisonnière, brandissant le drapeau national, et comme d'autres opposants détenus, elle est fière de sa peine de prison. Elle ne regrette rien et se dit prête à descendre à nouveau dans la rue, écrit Prensa Libre. Un dirigeant paysan explique dans le même journal, Hugo, si pour sortir de la crise, il faut que j'entame un dialogue avec ceux qui m'ont torturé, eh bien, pour l'amour du Nicaragua, je le ferai.
La presse outre-Atlantique passait en revue. Merci à Rim Lipold. J'ajoute un petit mot encore du Mexique. Une journaliste mexicaine abattue par deux hommes à moto. Cela s'est passé hier dans la ville de Huimanguillo, dans le sud-est du Mexique. Norma Sarabia, c'est son nom, correspondante du journal Tabasco Hoy. Pendant 15 ans, elle travaillait depuis peu pour d'autres médias locaux. Elle est la sixième journaliste tuée dans le pays depuis le début de l'année. Le Mexique est le troisième pays le plus dangereux du monde pour la presse après la Syrie et l'Afghanistan, avec plus de 100 journalistes tués depuis 2000 selon un décompte de Reporters sans frontières. Ils étaient entre 15 000 et 30 000 à battre le pavé au Chili, professeurs et enseignants en colère et dans la rue hier, deuxième semaine de grève consécutive. Tous exigent des négociations avec la ministre chilienne de l'éducation, membre du gouvernement de droite au pouvoir depuis l'an dernier. Parmi les sujets de discorde, la réforme des programmes scolaires ou encore le manque de moyens alloués à ce secteur public. Reportage dans la manifestation à Valparaíso, signé Justine Fontaine.
Professeurs en grève ou encore que la ministre démissionne, voici ce que crient des enseignants venus de toutes les régions du Chili. Sous une pluie fine et dans le froid de l'hiver austral, la manifestation bloque les derniers kilomètres de l'autoroute qui mène à Valparaíso et se dirige vers le Sénat et la Chambre des députés. Lisette Caballero est professeure d'éducation physique dans une petite ville de la région. Elle rejette la nouvelle réforme des programmes scolaires qui rend optionnel les cours de sport en fin de lycée.
Nous sommes l'un des pays dans lequel il y a le plus d'obésité au monde. Le ministère dit que le plus important, c'est le sport à l'école primaire. Mais que fait-on alors pour les élèves plus âgés? Ils seront en moins bonne santé.
À partir de l'an prochain, certains élèves risquent aussi de ne pas avoir de cours d'art ou d'histoire pendant les deux dernières années de lycée. Ce que regrette Gisela Caceres, professeure dans un lycée technique de Valparaíso.
Cette réforme des programmes porte préjudice à la jeunesse qui perd une opportunité de mieux connaître l'histoire du Chili et du reste du monde. Sur ma pancarte, il y a écrit « Pourquoi avoir peur d'éduquer le peuple ?» Avec les mots-clés, sans histoire, il n'y a pas de mémoire. Et puis, grève des professeurs de l'enseignement public.
Le syndicat des professeurs considère en effet que cette réforme répond davantage aux intérêts des grandes entreprises qu'à la volonté de former les citoyens de demain. Mais les revendications de la profession vont bien au-delà de cela. Titulariser plus rapidement les professeurs contractuels, payer les cotisations et salaires perdus par les professeurs quand les établissements scolaires sont passés du giron de l'éducation nationale à celui des municipalités, c'était sous la dictature du général Pinochet, ou plus généralement dénoncer le manque de moyens dans l'enseignement public. Nicolas Robles est professeur de mathématiques, il est venu de Santiago pour manifester.
Ça devient un business, l'enseignement public est délaissé, les enfants vont de plus en plus dans des collèges et des lycées privés. Le Chili est l'un des pays les plus inégalitaires au monde, donc si on se bat aujourd'hui, c'est aussi pour les enfants.
À cause des difficultés de l'enseignement public, le Chili est le pays de la région qui compte la plus grande proportion d'élèves inscrits dans des établissements privés. Le cortège est maintenant arrivé devant le Congrès. Une dizaine de parlementaires, presque tous de gauche et donc d'opposition, sortent applaudir les manifestants. Jorge Charp, le maire de Valparaíso, de gauche lui aussi, prend la parole.
Les élites politiques et économiques du pays sont en train de nous retirer quelque chose d'aussi fondamental que notre mémoire et notre histoire. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pourquoi, face à cette mobilisation massive, j'annonce que dans les lycées de Valparaíso, l'histoire continuera d'être obligatoire.
Le jeune maire de la ville affirme ensuite qu'il prendra la même mesure pour l'éducation physique. De son côté, le président du syndicat des professeurs, Mario Aguilar, demande encore une fois à négocier avec la ministre de l'Éducation.
C'est historique, une manifestation si grande ici, composée uniquement de professeurs. Cela montre la force du corps professoral. Nous sommes disposés à négocier avec le gouvernement, à chercher une solution à ce conflit. Maintenant, tout dépend d'eux.
Plus tard dans la journée, les représentants des professeurs ont été reçus par le secrétaire d'État à l'enseignement. Mais faute d'avancées concrètes d'ici à vendredi, ils affirment qu'ils prépareront une troisième semaine de grève. Justine Fontaine, Valparaíso, RFI.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Nous sommes mercredi, jour des sorties cinéma en France. Bonjour Elisabeth Le Quéré.
Bonjour.
Aujourd'hui, Elisabeth, le 7e art nous entraîne entre la France et Haïti, avec des zombies et des sortilèges. C'est le sujet du nouveau film de Bertrand Bonello, Zombie Child.
Oui, Haïti au Bertrand Bonello film, une zombification. On est en 62. L'homme s'appelle Clervius Narcisse et donc il est transformé en zombie pour travailler comme esclave dans les plantations de sucre. Et puis le film de Bertrand Bonello va faire un bond dans le temps, dans l'espace, dans la France d'aujourd'hui, où une jeune fille haïtienne fait son entrée à la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Alors quel est le lien entre cette prestigieuse institution de la République et puis les plantations de canne à sucre ? Eh bien cette jeune fille, Mélissa, n'est autre que la petite fille du zombie Clervius Narcisse.
Mon grand-père est mort en 1962. Il a été victime de zombification. Il s'enfuit.
Alors Bertrand Bonello, c'est le cinéaste qui a fait Yves Saint-Laurent, La Polonide, il adore les univers clos. Ici, dans Zombie Child, dont on vient d'entendre la bande-annonce, il va s'attacher à filmer cette jeune fille, métisse, orpheline, qui est accueillie alors dans un premier temps avec beaucoup de méfiance par les autres filles du pensionnat. Et puis celles-ci finissent par lui proposer de rejoindre leur sororité.
Pour faire partie de la sororité, tu dois nous raconter quelque chose d'hyper personnel, tu vois. J'habite avec ma tante. Elle est mon beau. C'est quoi mon beau ? C'est danseuse ?
C'est vrai que c'est assez complexe, cette histoire de double culture. Finalement, est-ce qu'on a vraiment une double ou on en a plus trop ? Elle le sait, elle est une petite fille de zombie. Mais qu'est-ce qu'elle en fait ? Qu'est-ce qu'elle sait vraiment ? Qu'est-ce qu'elle comprend vraiment ? De ça, elle ne sait pas quoi en faire. D'ailleurs, on voit bien quand elle a un peu des cauchemars ou des fantasmes, elle est presque plus proche du zombie occidental que du zombie haïtien. Elle le sait, mais elle ne sait pas quoi en faire. Voilà, c'est ça qui m'intéressait.
Voilà, Bertrand Bonello à propos de Zombie Child. Alors, le film de zombie est un genre cinématographique en soi, Elisabeth. Est-ce que cette production en fait partie ?
Eh bien, la partie haïtienne, elle est très belle, très inspirée. L'idée de départ, c'était de partir de l'histoire vraie de Clervius Narcisse et donc de filmer le rituel vaudou de façon très réaliste, pas du tout comme dans un film d'horreur, un peu comme un anthropologue, un scientifique pourrait le faire.
Le zombie haïtien, c'est pas le zombie occidental, c'est son origine en fait. Mais en tout cas, voilà l'idée de passer par... par une figure très très connue, quasi pop en fait, de la ramener à son origine pour finir par une évocation de l'esclavage, c'est quelque chose qui m'a vraiment travaillé et je suis parti d'une image assez simple, c'est qu'est-ce que c'est qu'un zombie en fait en Haïti. Bon voilà, c'est un homme qu'on enterre, qu'on déterre, qu'on fait travailler comme esclave et dans le cas du mien, qui était une histoire vraie, qui finit par s'échapper et errer pendant 15 ans dans les terres.
Voilà, on l'aura compris, on est très loin avec Zombie Child du film de zombie classique type Romero. Bertrand Bonello, il a cherché une façon de raccorder en fait cette histoire extraordinaire de zombie à une autre qui serait plus ordinaire, plus douce, cette jeune fille qui tente de trouver une place dans la société, entre ce pensionnat où on lui apprend à révérer la République française et puis sa tante qui est prêtresse vaudou, qui lui enseigne le respect des ancêtres et des rituels, Où est-elle, la jeune Mélissa? Eh bien, c'est un peu la tempête, sous un crâne d'adolescente que filme Bertrand Bonello dans Zombie Child.
Vous faites du vaudou, vous pouvez m'aider à vivre.
Il faut pas prendre ça à la légère.
Voilà, et bien sûr, Mélissa, elle va finir par craquer, par confier le secret qui hante les siens à l'une de ses camarades, et l'une d'elles, ravagée par un chagrin d'amour, en fera un usage irréparable. Voilà, c'est un très très beau film sur les zones d'ombre, d'irrationnel, de mystère de nos sociétés, mais aussi de nos cerveaux. Un grand film magnétique et romantique, signé Bertrand Bonello.
Zombie Child de Bertrand Bonello sort en salle aujourd'hui. Merci Elisabeth Le Quéré. Avant de rejoindre l'actualité des Antilles, un coup d'œil rapide à la presse haïtienne. Le Nouvelliste décrit Port-au-Prince comme une ville presque morte hier mardi, deux jours après les manifestations de dizaines de milliers de personnes à travers le pays pour exiger la démission du président Jovenel Moïse. Le grand commerce, la majorité des écoles n'ont pas fonctionné dans la capitale haïtienne. On reste dans les Caraïbes avec le journal de la première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Hugo.
Et devant les élus de la Martinique, les services de l'État se sont dit hier prêts à affronter la saison cyclonique.
Qui s'ouvre bientôt, le nouveau dispositif d'alerte et d'action a été donc présenté hier matin au maire du département. Un dispositif qui a quelque peu évolué pour tirer les leçons du passage de l'ouragan Irma sur Saint-Martin en 2017, on s'en souvient. Le préfet en tout cas a exhorté la population à se préparer à faire face à tous les scénarios possibles. Franck Robin, préfet de la Martinique, est au micro de Pierre-Yves Honoré.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la préparation, il est encore temps de la faire pour la population, pour les élus, bien sûr pour les services de l'État. C'est vraiment le message qu'il faut passer. Aujourd'hui, on lance la saison cyclonique. Et ce qui est important, c'est que chacun réfléchisse à ce que cela signifie pour lui. Oui, il est encore temps d'élaguer son jardin. Oui, il est encore temps d'expertiser sa maison pour voir si elle présente des faiblesses. Oui, il est temps de constituer les stocks d'eau, de nourriture, parce que tout simplement cela, c'est la garantie que nous pourrons faire face le jour d'après, comme vous dites. C'est ce qu'on appelle la résilience. Il faut être prêt à repartir le plus vite possible après un cyclone, et c'est en cela que la préparation est importante.
Un tout autre sujet avec Légumes de France qui ouvre une antenne pour les Antilles et la Guyane. Antenne basée en Guadeloupe, dans la commune du Moule pour être précis. Antenne inaugurée la semaine dernière. Légumes de France, c'est une fédération nationale qui représente près de 30 000 producteurs de légumes frais. C'est donc une grosse force de frappe, si l'on peut dire, qui va désormais venir conseiller les maraîchers de la région. Comme l'explique le trésorier de la coopérative Caraïbes Melonier, Jean-Marie Gobard. Il est au micro de Josiane Champion.
Ça permettra de manière globale aux producteurs de fruits et légumes de toute la Guadeloupe, basse terre comme grande terre, de pouvoir s'organiser pour distribuer les produits pour une grande et large satisfaction des consommateurs. Regardez le marché de Bergevin, regardez le marché du centre-ville, regardez le marché de Gourdeliane. On les appelle des marchés. Ce sont des gens qui se rassemblent à des moments du jour et de la nuit sur des places, des parkings et qui vendent dans leur voiture quand il pleut, ça va pas. Alors, énormément de gens se plaignent de ça. Et il y a de quoi. C'est pas un vrai marché de maraîchers. Et avoir le soutien de Légumes de France, avoir l'expertise de Légumes de France, permettra de se doter d'un outil de commercialisation et de distribution, donc un marché qui en vaille la peine.
Bon après-midi, Hugo. À demain.
Merci Benoît Ferrand, très belle journée à vous également. Le journal d'Haïti et des Amériques, c'est déjà fini pour aujourd'hui. À la réalisation, David Brocouet, merci à lui, merci à vous de nous avoir suivis. Cette édition, je vous le rappelle, est à retrouver sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Une seule adresse, vous la connaissez, rfi.fr. Le rendez-vous d'Haïti et des Amériques revient demain, même heure, même fréquence. D'ici là, n'oubliez pas, restez curieux.